J'ai voulu écrire pour répondre aux cartes postales de mon père. Je rêvais d'un stylo magique qui n'aurait révélé que des secrets d'une extrême importance. Et puis j'ai écrit, et j'ai réfléchi sur l'écriture, sur ce secret, sur cette folie aussi de doubler la vie, de la modifier. C'est une forme d'éternité. Bonjour à vous, et bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
Je vous ai pris vos mots pour commencer cette rencontre. Je l'ai
bien
trouvé
fait.
Tellement beau. Écrire, c'est décidément pour vous, pour d'autres, une quête infinie. Une quête dans laquelle vous vous êtes lancé il y a plusieurs décennies maintenant, peut-être même dès votre enfance, vous nous le direz tout à l'heure. Une quête infinie et puis une quête féconde aussi, puisqu'elle nous vaut en ce début d'année la publication de vos 19e et 20e livres, tous les deux aux éditions Lattès. Deux livres balises, je pense, dans votre œuvre, qui concentrent chacun à sa manière votre envie folle de dire la vie, de dire ses arrêts, ses vitesses, ses errances. Et là aussi, je reprends encore une fois vos mots. Le désir d'un roman sans fin, pour commencer, c'est un recueil de textes que vous avez écrit depuis les années 90. On y trouve des préfaces, des articles, des chroniques culturelles, des extraits de votre journal, aussi un conte pour enfants même. On y trouve tout ce qui fait votre œuvre, tout ce qui fait votre écriture, l'Algérie, bien sûr, la Bretagne aussi, on en dira sûrement quelques mots, l'amour, le désir, les femmes, la peau, et puis les livres, votre famille. Dire la vie, c'est aussi parfois savoir dire la fin de vie, ou peut-être chercher à prolonger la vie quand elle s'arrête. Au printemps 2022, vous avez perdu votre père, et grand seigneur, raconte ces 11 jours que vous avez vécu, ces 11 jours de temps suspendu dans un centre de soins palliatifs, 11 jours qui réveillent des souvenirs bien vivants, des fragments de la vie de cet homme mystérieux dont on va parler cet après-midi, et puis des bouffées aussi de votre propre vie. Comment vous expliquez, Nina Bouraoui, la concomitance de ces deux publications? Est-ce qu'il faut chercher des liens entre ces deux parutions? Est-ce que, par exemple, la proximité de la mort vous aurait donné envie de replonger dans vos décennies d'écriture?
En fait, si mes souvenirs sont exacts et précis, les deux livres, il n'était pas question qu'ils paraissent en même temps, puisque le premier, Le désir d'un roman sans fin, en fait, est né, je dirais, l'idée est née il y a à peu près 2 ou 3 ans. Je faisais du rangement, puis moi, je garde. Enfin, je jette beaucoup, mais pas du tout ce qui concerne mon travail. Et j'ai retrouvé de nombreux vieux magazines. C'est là où on s'aperçoit parfois de la défaillance technologique, parce que ces textes, parfois, étaient dans une disquette. On n'a plus de lecteurs de disquettes, ça n'existe plus. Certains d'entre eux étaient dans des ordinateurs qui ne fonctionnent plus, donc je n'ai pas pu les retrouver. Mais la majorité était dans ces magazines que j'ai gardés. Donc, pour certains, je les ai vraiment recopiés. Alors, il y avait au départ, une sorte de peur, parce que j'avais toujours, je me disais, c'est peut-être un peu testamentaire, tout d'un coup, de regarder vers le passé. Mais non, en fait, c'était vraiment un hymne à la vie, et à l'écriture, et à la littérature. Moi, souvent, je me dis, j'ai pas fait assez bien, c'est pas encore assez. Et puis, en me retournant sur tous ces articles qui sont parus dans l'Ibé, dans Le Monde, dans Les Inrocs, dans Le Elle, mais il y a aussi un conte pour enfants. Il y a aussi, ce sont des textes qui ont été dits aussi à la radio, notamment il y a eu des textes pour l'émission Boomerang de France Inter. Et en fait, tout ça fait que ça m'a confortée quand même dans la, comment dirais-je, dans ce qui existe dans mon travail, ce que j'ai bâti, ce qui fait partie de mon édifice, l'édifice amoureux, et surtout dans la fidélité. En fait, en lisant tous ces textes, je me suis rendu compte que j'avais toujours les mêmes obsessions, les mêmes thèmes, les mêmes envies, les mêmes désirs. Donc voilà, j'ai rassemblé. Et puis, c'est greffé tout d'un coup la maladie de mon père, à laquelle on ne s'attendait pas. Et surtout, on ne s'attendait pas d'une issue aussi rapide et aussi fatale. Donc ce texte était comme ça, réagencé. On a trouvé toutes les. Enfin, on s'est dit, moi, au début, j'avais commencé par les plus récents et après les plus anciens. Mais en fait, on a fait l'inverse. C'était beaucoup plus logique. Et puis, mon éditrice, Véronique Hardy, m'a dit, si tu écris un livre sur la mort de ton père, on les publiera ensemble. Et je trouve que c'était une bonne idée, parce que c'est les textes qui ont été écrits dans le recueil de textes font partie de la vie de mon père. C'était quelqu'un qui relisait tout, qui lisait tous mes livres, qui était très attentif au succès ou aux échecs aussi. Parfois, il n'était pas content. Mais pas content de moi, c'est ça qui est fou.
Des lecteurs qui n'avaient rien compris, c'est ça?
Oui. Et donc, c'est bien parce que les deux, c'est clair. Je pense que dans le recueil de textes, il y a encore des petites clés de certaines énigmes de mes livres. Et j'ai aussi une volonté d'archive. Je pense que c'est très important, après la cinquantaine, que les écrivains fassent des archives de leur travail, déjà pour leurs lecteurs. Et puis, vous savez, un livre, il y a quelque chose d'irréel dans un livre, quelque chose de très presque aérien, presque volatile. Et le fait de publier, de republier des textes qui ont été déjà publiés, les ancre dans une réalité qui échappe, en tous les cas, les ancre pour un certain temps.
Le lien est peut-être assez malvenu, mais puisque vous employez ce terme de testamentaire, moi, je dois vous dire que ce qui m'a beaucoup touchée dans cette double parution, c'est, en tout cas, il y a un lien qui m'a saisie, un lien que peut-être moi seule fais, mais vous racontez dans Grand Seigneur que peu de temps avant sa mort, votre père ressent le besoin de retourner à Alger, une dernière fois probablement, pour mettre de l'ordre dans tous ses papiers, pour faire le tri. Alors lui, c'est plutôt pour tout jeter. J'ai été touchée en lisant ce passage, en vous imaginant, vous, à peu près, dans la même temporalité, être aussi en train de fouiller dans tous vos documents. Mais là, cette fois-ci, pour les publier. Vous parliez de fidélité tout à l'heure et vous disiez que vous gardiez tous vos textes. Est-ce que c'est aussi pour cette question de fidélité à ce que vous produisez, ou est-ce qu'il y a quelque chose même de l'ordre de la superstition de l'écrivaine?
Je crois que, franchement, dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt joyeux et parfois léger, même si mes livres ne reflètent pas toute cette absolue réalité. Mais en tous les cas, s'il y a une chose que je prends au sérieux, c'est l'écriture, la littérature. C'est pas rien. Ce sont des années de travail, de construction. Il y a une œuvre architecturale dans l'œuvre d'un écrivain. Et donc, les garder, c'est aussi garder ce que je suis. C'est garder mon cœur, c'est garder mes souvenirs, mes émotions, garder mon passé. C'est garder le passé de mes parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à Rennes et pour moi, c'est très émouvant puisque mes parents se sont connus à la faculté de droit et d'économie à Rennes. Mon père venait de Vannes. Il avait été comme exfiltré d'Algérie parce que c'était la guerre et que la France lui a donné sa chance et c'est devenu un étudiant français qui a épousé une Française. Et moi, je suis née à Rennes. Et ne serait-ce que pour cette histoire-là qui est particulière et qui a certainement éclairé de façon parfois très concrète ou pas du tout chacun de mes romans, et encore plus Grand Seigneur, puisque la photo du bandeau, je viens juste de m'en apercevoir, elle a été prise au Tabor. Moi, je l'ai recadrée. À côté, normalement, il y a ma grand-mère Simone, et avec un grand caniche. Et c'est vrai que nous sommes au Tabor, et je dois avoir, je ne sais pas, deux ou trois ans. Et tout ça, voilà, je prends au sérieux, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, écrire, c'est doubler la vie, c'est restituer, c'est rapporter une mémoire, une histoire. Alors bien sûr que les écrivains sont des trafiquants, bien sûr qu'on réajuste le réel, bien sûr qu'on ment un peu, mais dans ce mensonge, la part de vérité est toujours majoritaire et majeure, en tous les cas pour moi. Donc tout garder, parce que c'est ce que j'ai de ma vie et de la vie des miens. On parle d'archives, on a déjà parlé d'archives, donc il y a une cohérence. Tout garder pour dire que ça existait.
Qu'est-ce que votre père disait sur vos livres? Comment il les commentait, lui qui les lisait tous?
Il était très fier, mais parfois, je sais, quand j'ai eu le prix Renaudot, il m'a dit « Mais ma fille, pourquoi t'as pas eu le Goncourt ?»
Mais quand même. Voilà.
Mon père, il m'a élevée toujours, il m'a dit « Il faut être la première ». Moi, j'étais même pas la seconde, j'étais souvent la dernière. J'ai été souvent un cancre, en fait, et je me suis toujours sauvée par la chance et une faculté de concentration et de travail comme ça à la dernière minute. Mais il était très fier parce que je porte son nom et que, étrangement, je l'ai appris assez tard, bien après avoir publié que Rawi, parce que Bou, c'est le fils d'eux, Rawi, c'est raconté en arabe, donc c'était prédestiné. Et puis il était il avait une lecture très précise, très rigoureuse. Mon père était quelqu'un de très sérieux, très méticuleux. Et puis il aimait la littérature. C'est-à-dire que mon père, enfant, lisait Ronsard et Apollinaire, qu'il récitait par cœur. C'était un homme très lettré, qui aimait les lettres françaises. Et d'avoir une fille publiée, je crois que moi qui n'ai pas d'enfant, je déteste ces écrivains qui disent voilà, mes livres sont mes enfants. Non, absolument pas du tout. Mais en revanche, moi, je me sens très la fille de mes livres. Ça, c'est vrai. Il me ressemble beaucoup. Mais je crois que pour le nom de mon père, que je n'ai pas de descendance, mais que tout d'un coup, son nom soit ainsi imprimé sur une couverture. Et d'ailleurs, je lui ai promis, quand il était en train de mourir, je lui ai promis d'honorer encore son nom et de toujours écrire encore mieux, encore plus, de ne jamais abandonner.
Quel lien vous aviez avec cet homme? Quel genre de fille vous étiez?
Ben d'abord, je pense un garçon. Mon père n'attendait pas, ne voulait pas de fils. Mais on a grandi en Algérie, donc je suis née à Rennes, ma sœur aussi. Et à partir de 2 ou 3 mois, nous sommes arrivés à Alger. Donc j'ai grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 14 ans. Et il était évident que dans ce pays masculin, viril, un peu dangereux, un peu violent déjà, qui sortait d'une guerre terrible et qui ne le savait pas, qui allait entrer dans une autre guerre à la fin des années 80. Mais en tous les cas, tout ce terreau était là, on le ressentait. Donc la force était du côté des garçons, de la virilité. Donc mon père nous a élevés dans ce sens-là, de savoir se défendre, courir vite, pas faire confiance, il était un peu parano. Ça n'a pas pris sur ma sœur, mais moi, ça a extrêmement bien pris, puisque j'avais une identité un peu floue et que mon côté viril était supérieur à ma part de féminité. Il m'a appris à jouer au foot, il m'a appris à nager, il m'a appris à sauter des rochers et il m'a appris aussi l'exigence. Alors, je l'ai dit, j'étais un cancre, mais le regard de mon père, qui était quand même assez sévère... Mon père voyageait beaucoup. Il était haut fonctionnaire et la majeure partie du temps... Il n'était pas à la maison et ma mère était très tendre, un peu laxiste, un peu dépassée. Et quand il rentrait, tout d'un coup, avec ma sœur, l'ordre revenait, la tendresse un peu brutale aussi. Les années 70 sont des périodes où je sais que les gens de ma génération, parfois, les coups de ceinture pouvaient arriver, les coups de savate, les coups de raquette, enfin ça, on a tous... Alors à l'époque, on pensait que c'était normal, ça ne l'était pas du tout, parce que ça laisse des marques, ça laisse des traces. Mais en revanche, il y avait, je crois, une admiration réciproque, c'est-à-dire que moi, je voulais devenir mon père. Je voyais cet homme qui écrivait beaucoup, il écrivait des discours pour les autres et pour lui, très tard dans la nuit, avec ses cigarettes, avec des papiers autour de lui, et je l'écris dans le livre... C'est vraiment le fakir qui écrit. Et quand on grandit dans un pays un peu viril et misogyne, même si on est une petite fille, on devient un peu misogyne. Et pour moi, le métier d'écrire était un métier d'homme. Il fallait absolument que je me l'accapare. Il fallait absolument que cela devienne mon métier. Je crois que... Alors, ma mère lisait beaucoup. Elle les tenait ses livres contre sa poitrine, comme l'on tient des enfants. Je l'ai beaucoup écrit. Ça, j'étais jalouse de cette solitude. J'étais jalouse de son passe-temps de lectrice qui m'arrachait des heures à ma mère. Mais l'écriture vient vraiment de mon père. Je crois qu'il y a quelque chose de très... Alors peut-être que lui aussi, comme il s'appelle Bouraoui, c'est peut-être très, très cohérent.
Il vous a transmis son nom, il vous a transmis aussi, semble-t-il, vous l'évoquez furtivement dans le livre, un mystérieux fluide dans vos mains. Qu'est-ce que c'est que ce fluide?
Oui, il y a une légende, en fait, dans notre famille. En fait, il n'y a pas beaucoup de Bouraoui en Algérie, il y en a surtout beaucoup en Tunisie. Et puis, la branche tunisienne est arrivée à l'est d'Alger, en Kabylie, à Djigel, où a grandi mon père, où vivaient mes grands-parents. Et en fait, à Sousse, il y a une petite ville qui s'appelle Sidi Bouraoui. Et il se trouve que peut-être cet homme, qui était un saint, un soufiste, c'est-à-dire la branche de l'islam la plus tolérante, la plus joyeuse, qui célèbre le vin, les femmes, l'amour de Dieu et l'amour des êtres, sans grande différence, mais en tous les cas, tout le monde est égaux, toutes les religions sont égales et chacun se respecte. Et mon père pratiquait cet islam-là, qui n'était pas du tout un islam qui fait peur, mais plutôt un islam qui rassemble et qui se fait surtout dans la discrétion. Il me disait toujours, la religion n'est qu'une affaire intime, non seulement elle ne s'impose pas, mais elle ne se partage pas. Et donc ce Sidi Bouraoui était un marabout qui faisait pas du tout de magie noire, mais qui soignait les gens avec ses mains. Et il se trouve que mon père et moi, c'est vrai, nous savons soigner les maux de tête ou les maux de ventre, il y a quelque chose... dans les mains, et je me dis souvent les mains, après tout, c'est la main qui écrit aussi. Alors est-ce que ce fluide ne réside pas aussi au creux de la paume qui écrit.
Et qui soigne de différentes façons. Vous parliez du métier d'écrivain, de l'image que vous en aviez, en tout cas, enfant. Est-ce que vous pensez, et ce livre en est peut-être la résultante, que tout écrivain doit un jour nécessairement se frotter à l'exercice d'écrire la mort ?
Je crois que c'est une obsession, une peur, une phobie propre à tous les écrivains. En tous les cas, moi, elle m'a construite dans sa défiance et se désister, échapper à ça. Je me disais toujours, un jour, j'écrirai. Parce que si on n'écrit pas sur la mort de son père, franchement, je ne vois pas sur quoi on peut écrire. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose, c'est la plus grande expérience de la vie. Cette expérience-là de la mort. Et c'était quelque chose de menaçant, et ce temps est arrivé. Je pensais m'en être protégée de façon ignorante et certainement totalement immature, puisque j'ai eu longtemps un pied dans l'enfance, un pied dans la jeunesse. J'ai mis du temps à devenir une femme adulte. Alors, j'ai toujours été responsable, mais disons que mon enfance et ma jeunesse ont beaucoup mordu ma vie adulte, et tant mieux, j'en ai gardé l'innocence et une forme de poésie. Et c'est vrai que quand mon père est tombé malade, et surtout, c'est pas la mort en elle-même en fait, c'est surtout lorsque j'ai assisté pendant 11 jours dans ce centre de soins palliatifs à l'agonie de mon père, mais qui était à la fois terrible, tragique, épouvantable, et à la fois tellement lumineuse, parce que j'ai découvert un lieu incroyable à Paris, qui s'appelle Jeanne Garnier. Je crois que c'est une exception française, les soins palliatifs. Hélas, nous n'en avons pas assez. Mais je suis entrée dans une maison que je ne voulais plus quitter, non seulement parce qu'elle gardait mon père n'était plus dans un lit, mais je trouvais dans un berceau. J'ai vu l'enfance, en fait, de mon père, qui soudain est devenu si maigre, si, en plus, si dépendant. Et moi, qui n'avais aucune photographie de lui enfant, la maladie a cette chose étrange, c'est qu'elle dénature l'être qui en est profondément touché. Et tout d'un coup, ce père étranger, on disait étranger parce que algérien, et tout d'un coup, c'était un autre étranger encore. Il était, je ne le reconnaissais pas, mais j'ai reconnu peut-être le petit garçon qu'il avait été, ou le petit nourrisson dont je n'avais aucune photographie. Et en fait, dans ce lieu, s'est tissé des liens extrêmement forts avec les soignants, avec les personnes qui vous aident aussi psychologiquement, qui sont dans les couloirs. Vous pouvez vous adressez à eux à tout moment. On m'a beaucoup prise dans les bras. Moi, j'ai pris des étrangers, des gens, des inconnus dans les bras, et ça ne me gênait pas du tout, parce qu'en fait, dans ce lieu, au premier étage du Sacré-Cœur, qui est pourtant un mouroir, je n'ai vu que la vie circuler, que la gentillesse, que la douceur, que la solidarité. Et en fait, c'était un temps très bizarre, irréel, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, parce que nous étions comme sous hypnose. On passait 8 heures par jour avec ma sœur, mes neveux, ma mère. On ne voulait jamais quitter la chambre de mon père. On ne voulait jamais le laisser seul. Ma mère y dormait. Et en fait, j'ai lu des passages des nourritures terrestres. C'était l'un de ses livres favoris. Et quand j'ai lu un passage sur les oiseaux, tous les oiseaux du jardin de Jeanne Garnier se sont mis à chanter. Il y a eu comme ça que des choses très bizarres. Et je revivais quelque chose d'autant plus étrange, c'est que l'un de mes éditeurs, qui a beaucoup compté pour moi, Jean-Marc Roberts, est mort il y a 10 ans à Jeanne Garnier. Et je l'avais eu 9 jours avant sa mort. Il m'avait décrit sa chambre, qui ressemblait étrangement à la chambre de mon père. Et à Jeanne Garnier, il y a une chapelle, mais il y a aussi une bibliothèque. Et moi, je m'échappais parfois de cette chambre quand ça devenait trop difficile. Et je me réfugiais dans les livres, comme je l'ai toujours fait. Et dans cette bibliothèque, il y avait des livres de Jean-Marc. Donc la boucle était bouclée, en quelque sorte.
Quand on vous lit, on vous sent effectivement complètement happé par ce lieu. Effectivement, enfin, le lieu est un programme, un lieu entièrement dédié à la mort et en même temps qui transpire la vie, comme vous dites, qui est un peu un vestibule, un entre-deux. Est-ce que c'est le lieu pour vous qui déclenche le récit dans votre esprit avant même de passer à l'écriture ?
Oui, je crois que c'est un lieu très particulier parce que j'y ai fait l'expérience, certes, voilà, de l'agonie de mon père, de sa souffrance, puis de sa mort, mais j'y ai fait aussi l'expérience de ma propre condition humaine. En fait, à chaque fois que je montais les étages, les escaliers, enfin, c'était au premier étage, les escaliers, marche après marche, j'ai compris qu'en fait, bien sûr que la vie a une fin, bien sûr que nous sommes que de passage, bien sûr que chaque minute et chaque heure doivent être pleinement occupées, que la vie passe vite et qu'il fallait enfin pouvoir regarder sa mort dans ses propres yeux. Et c'est vrai que je ressens beaucoup physiquement à mon père. Donc, quand j'étais dans sa chambre, il y avait deux images spectrales vraiment qui jaillissaient, à la fois l'image de l'enfant que je n'avais pas connu, lui, et à la fois l'image de mon visage qui aurait vieilli, se serait cassé, aurait été amoché, très amaigri. Donc, je ne voulais pas en faire une expérience prophétique, mais une expérience d'initiation, de grande maturité, enfin. C'est-à-dire que j'ai laissé à Jeanne Garnier pour toujours mon enfance, mon innocence, mais certainement pas mon optimisme. Il s'est passé des choses très étranges là-bas. Alors après, même s'il n'existe pas, moi je crois aux fantômes, je crois aux signes, j'ai une spiritualité, je suis croyante, il y avait une chapelle. Alors, c'était assez étrange parce qu'on m'avait proposé qu'un aumônier vienne voir mon père, mais mon père qui ne définissait pas sa religion à part aimer les êtres et les respecter et avoir une relation très particulière avec son Dieu. Donc je dis, mais il n'est pas catholique. Elle me dit, mais nous avons des imams très bien. Ça m'a fait rire parce qu'aujourd'hui, on a un peu peur de... Et je dis, non, mais il ne veut pas. Mon père, c'était cavalier seul. Il ne voulait absolument pas. Il est parti en colère, ça, c'est dommage. Mais je pense que c'est parfois... les amoureux de la vie et les amoureux de la joie... ne veulent pas mourir. Ils sont en colère et ils ont raison d'être en colère.
Dans ce lieu que vous décrivez comme une bulle coupée du temps, coupée de l'agitation du monde, on voit, c'est ça, le temps se suspendre, se distordre aussi. Et puis vous rapportez une expérience qui doit être très troublante pour une personne comme vous qui écrit, qui manie les mots au quotidien. C'est la bascule dans une espèce d'économie de mots, dans une modification du langage, une espèce de réduction à l'os, un petit peu d'ailleurs à l'image de ce que vous décrivez, c'est-à-dire la transformation du corps de la personne qui est en train petit à petit de disparaître. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur le langage dans cette expérience ?
J'ai appris une chose, je crois que les mourants nous entendent jusqu'à la fin. Et donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Alors c'était drôle, puisque nous on est dans notre famille, moi souvent je dis c'est un peu la famille hollywoodienne ou un peu Paramount, ou c'était très bien, au-dessus du lit de mon père, ma sœur et ma mère se disputaient. Et tant mieux, je pense qu'ils devaient en rire, ils devaient dire tant mieux, c'est pas que larmoyant. Ça m'a appris aussi qu'on dit jamais assez je t'aime à ceux que l'on aime. On le dit jamais assez. Et moi après j'avais une litanie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je me disais mais est-ce que je lui ai assez dit quand... il pouvait me répondre, je ne sais pas. Cela m'a appris aussi à m'adresser à un inconnu, puisque je ne reconnaissais plus mon père. Et peut-être aussi le sens de la vie. Je me suis souvent demandé, quand je sortais de cet endroit, je me disais, mais en fait, mais pourquoi on écrit, pourquoi on tombe amoureux, pourquoi on voyage, pourquoi on se rassemble ? Pourquoi on discute, pourquoi on se rencontre, pourquoi on apprend, pourquoi on s'intéresse, pourquoi on se questionne, pourquoi, puisque tout doit nous être retiré. Et en fait, j'ai compris que c'est parce que tout va nous être retiré qu'il faut apprendre, connaître, s'aimer, savoir, se disputer, se réconcilier, voyager, et que peut-être que la vie et la mort... se font un baiser ardent chaque jour, qu'il ne faut pas l'oublier. Alors évidemment, il ne faut pas vivre dans l'idée de la mort, il faut toujours vivre dans l'idée de la vie, de la vie joyeuse. Moi, je dis que j'ai hérité de mon père aussi du don de la joie. Il était très, très... C'était quelqu'un qui riait tout le temps, qui était très heureux, parfois avec une obscurité très orientale et un pessimisme aussi qui était lié à l'Algérie, parce que l'Algérie n'est pas un pays toujours très drôle, c'est un pays difficile, c'est un pays aussi qu'il a abandonné, et ce livre est important aussi de raconter que mon père a donné beaucoup de sa vie à ce pays et que quand ce pays sombre dans la guerre des années 90, qu'on a nommé la décennie noire, quand tous ses frères tuent leurs sœurs, leurs mères, leurs filles, quand ce pays tombe dans le sang, le monde entier oublie l'Algérie et l'Algérie oublie mon père. Il a 56 ans, il perd son métier et il va attendre un appel providentiel. Et dans cette attente, je pense que la maladie y a fait son lit.
Parmi toutes les questions que vous posez en sortant de Jeanne Garnier, vous en évoquez certaines, pardon. Vous avez aussi cette interrogation lancinante sur ce qui va changer en vous. Vous savez que la mort va être un choc et que vous ne serez plus la même après. Est-ce que vous allez vous tordre? Est-ce que vous allez grandir? Est-ce que vous allez vous élever? Est-ce que vous allez devenir une autre écrivaine, peut-être aussi? Alors, c'est assez frais encore, mais est-ce que vous pensez que cette expérience que vous décrivez comme l'aventure la plus intense de votre vie a fait bouger quelque chose dans l'écriture?
En tous les cas, ce livre en est la preuve dans la vérité. C'est vrai que c'est la première fois que chaque ligne écrite dans ce livre, rien n'a été modifié. Tout est vrai. D'ailleurs, au départ, je l'avais intitulé roman, et puis après, on l'a retiré. Alors, ce n'est pas un témoignage, parce que c'est de la littérature, il y a de la poésie. Mais en tous les cas, tout s'est déroulé ainsi. Toutes mes pensées ont été ces pensées-là. Tous les actes ont été ces actes-là, tous les personnages. C'est évidemment un récit qui m'est personnel, et je le dis, c'est-à-dire que si ma sœur ou ma mère ou ma nièce avaient raconté l'agonie de mon père, le récit aurait été certainement différent, puisque c'est mon prisme, et que c'est comme une scène d'accident. Quand on demande aux témoins, alors l'anorak était rouge, ou alors oui, rouge, non, il était vert, une voiture est passée, non, c'était un camion. Enfin, on a tout passe aussi par... ce que nous sommes, par notre être et par notre lien aussi. Moi, le lien avec mon père était tellement particulier. Mon père, en partant, a emporté aussi ma virilité. Il me laisse avec ma seule féminité. Alors, tant mieux, je l'aime, ma féminité. Mais comment, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que c'est lui qui m'appelait Brio, ça voulait dire un peu garçon. C'était pas Brio pour intelligente, hein, pas du tout. C'est parce que j'avais une grande boîte de feutres de toutes les couleurs, qui s'appelait Brio. Et j'avais toujours cette boîte, parce que je dessinais. Donc c'était... Après, moi, j'ai pensé que c'était l'intelligence, mais pas du tout, c'était les feutres. Et je me dis, mais il est parti avec tout ça. J'ai souvent dit que c'était mon seul ami, quand j'étais plus jeune, quand je suis arrivée à Paris, et que mes parents vivaient encore dans le Golfe. Puis ils me disaient, tu te feras des amis. Je dis, non, tu es mon seul ami. Parce que mon père savait, c'était d'autant plus beau, lui, homme, algérien, kabyle, il a toujours su pour moi, il a toujours accepté mon homosexualité et surtout il n'en a pas fait un sujet. Il était heureux que je sois heureuse et parfois il percevait des larmes mais il disait rien. Et puis après il percevait une joie, il était heureux et lui qui admirait les femmes et qui les plaçait vraiment sur un plan supérieur. Mon père disait toujours les femmes sont supérieures à moi et je dois encore apprendre d'elles. Alors la mort de mon père... je ne sais pas ce que seront mes prochains livres, mais en tous les cas, l'écriture de ce livre vient de cette mort-là et a imposé une réalité, une vérité pour qu'elle existe. Parce que finalement, dans ce lieu, Jeanne Garnier, nous étions tous sous hypnose. Et mon père, je suis rentrée à nouveau dans cette chambre 119 pour comprendre que mon père avait été vraiment malade et qu'il était vraiment mort. Et c'est vrai que la fin de l'écriture du livre a été très compliquée pour moi. Je l'écris tout doucement, ce livre, moi qui d'habitude écris très vite. Je ne voulais pas lâcher la main de mon père. Le dernier mot était... voilà. C'est... Alors je ne dis pas, la littérature n'est absolument pas là pour consoler ses auteurs. Elle est uniquement là pour consoler ses lecteurs. Mais je crois que ce livre-là, ça n'a pas du tout été ni une thérapie, ni quoi que ce soit. Ça a été rendre hommage. C'est pas un tombeau, c'est pas un tombeau littéraire, mais c'est raconter quelque chose de si universel qui nous lie tous. Nous sommes tous égaux. Et c'est là où je me suis rendu compte à Jeanne Garnier qu'en fait, l'humanité, la douceur de l'humanité surgit quand on est au seuil de la mort, que ce soit pour les patients ou pour les accompagnants. Bah, quel dommage!
On va donner à entendre un peu de votre écriture et puis on va parler de la vie de votre père ensuite. C'est important de s'attarder sur ce personnage. Alors il se trouve que l'extrait que vous allez lire, Nina Bouraoui, vous en avez parlé il y a quelques minutes un petit peu. C'est la chapelle, cet aumônier et puis ce qui se joue dans cette maison Jeanne Garnier.
Mon père va mourir auprès de nous, son unique famille, disait-il, encore conscient, comme s'il était né de nous. Pour nous. Je ne connais plus sa sœur, ses frères. Je ne connais pas mes cousins, mes cousines. Mon grand-père est mort jeune. J'ai quelques souvenirs de ma grand-mère algérienne, si peu. Des souvenirs tendres, ses baisers, ses mains, ses gâteaux qu'elle nous faisait parvenir par la poste de Djigel à Alger, l'odeur de la fleur d'oranger, la maison familiale, un jardin intérieur, un citronnier, un rossignol. Mais je crois que j'invente. J'ai longtemps gardé la photographie d'un homme dans le maquis en tenue militaire, le prenant pour mon oncle martyr, le frère aîné de mon père porté disparu. Je l'ai gardé comme unique trace de l'adolescence de mon père et non pour ce qu'elle représentait et que je trouvais effrayant. J'ai découvert, il y a peu, qu'il ne s'agissait pas de mon oncle, mais d'un inconnu. Dans la chapelle, une femme me dit qu'elle va prier pour mon père et que si nous avons besoin d'un aumônier, elle se tient à ma disposition. Quand je lui dis que mon père n'est pas catholique, elle me répond que Jeanne Garnier est en relation avec des imams. Je la remercie, je lui dis que je suis très touchée par son attention, mais que mon père n'a formulé aucun souhait en ce sens et que je respecte sa volonté. Mon père reste un cavalier solitaire. Sa mère, à son sujet, disait « Il est né en colère ». Ma mère a ajouté hier « Il va mourir en colère ». Et moi, je pense que mon père meurt de colère depuis longtemps. Colère d'un homme qui a attendu, espéré, rêvé. Colère d'un homme déçu. Colère d'un homme malade, enfin. Colère de ne plus pouvoir plonger des rochers, de sentir le soleil sur sa peau, de marcher, de lire, de chanter, de danser. Colère d'avoir perdu sa jeunesse, sa force, sa santé. Colère de ne pas avoir pu rester chez lui pour s'éteindre. Il n'y a rien de plus intime que l'agonie. Agonie d'un corps que nous regardons, attendons, scrutons. Un corps nu, sans défense, livré aux médecins, aux infirmiers. Un corps immobile quand nous sommes en mouvement, de sa chambre au dehors et du dehors à sa chambre. Mon père est pris au piège. Il ne pensait pas mourir de si tôt. Je le comprends, dans la chapelle, quand je prie avec mes mots une sainte Vierge au visage penché. Mon père visait une forme d'éternité terrestre. J'irai au moins jusqu'à 100 ans. Moi aussi, je penche mon visage, le poids de la douleur sur mes épaules, la haine du monde des autres dans mon cœur, puisque ce monde ne s'arrêtera pas, n'attendra pas mon père.
Merci.
Merci.
Il y a cet octogénaire, Rachid Bouraoui, qui est donc en train de mourir dans la chambre 119. Et puis, je le disais, il y a ce personnage qu'il a été toute sa vie, en tout cas ce personnage que vous avez su voir en lui et que nous, lecteurs et lectrices, on commence un petit peu à connaître d'un roman à un autre. Il y a d'abord ce petit kabyle que vous évoquiez de Djigel, sur lequel vous disiez savoir peu de choses. Qu'est-ce que vous connaissez de l'enfance, de l'adolescence de votre père ?
Alors, mon père est né en 1935 en Kabylie. Ses parents vendaient des légumes et des fruits. C'est un petit garçon déjà très attiré par la culture. Adolescent, il va rejoindre l'école d'instituteurs à Constantine. Il est repéré par des professeurs. Lorsqu'il devient majeur, son frère aîné, qui lui suit il est en troisième année d'antisterie, son frère aîné va s'engager et va partir au maquis. Ils sont assez nationalistes. Ils sont évidemment pour l'Algérie algérienne. Et mon père veut s'engager, mais on lui dit que non, parce que le frère aîné sait qu'il est martyr et il sait qu'il va se sacrifier. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, il dit non, toi, tu vas partir, tu ne feras pas la guerre. De toute façon, il ne faut pas faire la guerre. Mon grand-père algérien, lui, est très proche des Français. Mon grand-père algérien, il a un peu, avec son magasin de fruits et légumes, c'est un peu le deuxième maire de Djigel. Mon père a des amis italiens, espagnols, français, juifs, catholiques. Enfin, cette guerre-là, je pense que c'est une... lui, quand il envisage ce combat-là, et je le sais parce qu'après on en parle souvent, c'est comme une folie de jeunesse. Donc on l'exfiltre, il part, il prend un bateau, il arrive à Marseille. De Marseille, il va à Toulon, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on lui conseille un lycée à Vannes, parce qu'il y a un professeur qui est en lien avec un professeur de Constantine de l'École normale d'instituteurs. Il arrive à Vannes, il passe son bac avec brio. Je pense qu'il a un ou deux années de plus que les autres élèves à cause de la guerre. Il tombe amoureux d'une professeure d'anglais qu'il appelle l'oiseau rare. Il conquiert un peu tous les cœurs. Mon père est très beau, très charmeur, très élégant. Et puis le proviseur de Vannes, lui dit « Il faut aller à Rennes. Je connais le doyen de la faculté. » Je trouve très beau parce que c'était la guerre pourtant et la France a donné la chance à mon père. Et mon père en a été très conscient jusqu'à la fin de sa vie. Il se sentait très français. Il a vécu après plus de 30 ans en France. Il avait acheté un appartement en France. Il a un peu travaillé en France. Et était très respectueux de cette chance, ce pays qui vous donne le savoir, la connaissance, le soin. Ce qui est rarissime. Nous avons de la chance. Et puis il rencontre à la fac de droit et d'économie ma mère, Rennaise, dont les parents étaient chirurgiens dentistes. Ils se marient en 61. Ma sœur naît en 62, ils partent à Alger. Moi, je nais en 67, mais ma mère ne voulait pas accoucher à Alger. Donc, je suis arrivée à Rennes, à l'Hôtel Dieu, et puis on repart. Et en fait, après, mon père est professeur. Il est doyen d'une faculté à Rennes, à Alger. Et il rentre à la Banque centrale d'Algérie. Là, il gravit les échelons. Il est très vite directeur général. Et puis, il devient haut fonctionnaire. Il représente son pays à l'étranger, notamment au FMI. Il part beaucoup à Washington, il part beaucoup en Asie, il part beaucoup dans les pays d'Afrique. Il participe à la négociation des otages américains qui étaient prisonniers à Téhéran. Les négociations ont eu lieu à Alger à la fin des années 70. Il y a une photo qui témoigne que l'on peut trouver. C'est un homme très discret, très secret. Moi, je le prends pour un espion. Peut-être que j'ai raison, je ne sais pas. Quand il part en mission, on ne connaît pas le nom de son hôtel. Il reste souvent 3 semaines, 1 mois.
Il ressemble beaucoup à un agent secret, quand même. En tout cas, moi, je l'imagine comme tel, avec son grand trench, ses
verres. Il est très élégant. Il fait partie aussi de cette génération d'hommes, je trouve, un peu à la Claude Sauté. Vous savez, Montand, Brasseur, avec ses trenches, l'homme pressé, Alain Delon. Ma mère le surnommait le courant d'air. C'est vrai que nous, on a passé plus de temps à Alger sans lui qu'avec lui. Mais il est très généreux. Il a une sorte d'amour infini pour sa famille. Et pourtant, c'est difficile parce qu'on lui reproche en Algérie d'avoir épousé une Française. Je pense qu'il perd son poste à cause de ça. Mais ma mère est vaillante, courageuse. C'est une blonde aux yeux bleus qui tombe amoureuse de ce pays. Et c'est difficile parce que ma mère a souffert du racisme anti-français en Algérie, beaucoup. J'ai vu ma mère insultée. Un peu secouée, un peu agressée, mais elle était tombée amoureuse d'un homme et d'un pays. Elle aimait vraiment ce pays. D'ailleurs, elle dit, j'ai donné toute ma jeunesse à ce pays. Et ce père est très féminin aussi. Pour moi, il a quelque chose de très féminin. Il se parfume beaucoup, toujours très élégant. Il aime le jazz, il aime Reggiani, il aime Jean Ferrat, il aime la poésie, je l'ai dit. C'est un amoureux des femmes.
Agent secret, alors, est-ce possible?
Je ne sais pas.
Avez-vous creusé cette piste au-delà de tout ce qu'effectivement la description physique que vous en faites peut activer de clichés, de cinéma, d'espionnage? Effectivement, moi, je vois votre père comme ça.
C'est un peu un fantasme, mais c'est vrai que mon père devait partir pour une mission... en Iran, ou en Irak, je ne sais plus. Et la veille, il n'est pas monté dans l'avion. Et en fait, l'avion était abattu. Après, mon père était à l'ONU. Et il nous a dit... Et il y a une prise d'otage, en fait, c'était à Vienne. Et en fait, on est cherché à le joindre. Il nous a dit, ah non, je suis sortie 1 heure avant pour vous acheter du parfum. Donc, il y avait des trucs comme ça. Je vous ai dit, tiens, c'est marrant. Il était au courant de choses avant les autres. Et puis, en fait, quand... 2 mois avant sa mort, il était déjà très, très fatigué. Et il m'a dit, j'ai plein de dossiers dans l'appartement à Alger, je dois absolument y retourner. Mais je vendrai cet appartement, d'ailleurs qu'il n'a pas vendu, qu'il nous a laissé sur les bras, c'est un peu compliqué. Et je lui ai dit, mais moi je t'accompagne. Non, non, certainement pas. Et puis il était très faible, il a regagné, il a gagné son avion en chaise roulante. Et on était dans un petit salon, je lui ai dit, j'aurais dû venir. Non, 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 je lui ai dit, mais tu vas faire quoi? Il m'a dit, je vais déchirer des choses. Je lui ai dit, mais tu sais, t'as 86 ans maintenant, c'est vieux tout ça. Je lui ai dit, mais t'es agent secret? Il m'a dit, mais absolument pas. Je lui ai dit, mais après on se renseignait, tu sais, mais pas sur les gens, jamais. Un peu sur les pays. Je lui ai dit, ok, d'accord. Et en fait, il a passé 3 semaines, alors qu'il était très, très faible, à déchirer. J'ai trouvé très symbolique, il a déchiré son passé en fait. Et il m'a dit, toi qui écris, tu dois te rendre compte ce que c'est de déchirer son travail. Et je n'ai pas compris, il ne voulait pas laisser de traces de lui. Pourtant, il n'y avait rien de compromettant. Mais je crois qu'il a voulu... Je me suis demandé s'il voulait mourir en Algérie. Je lui ai demandé, je lui ai dit, si tu pars, il y a des chances que tu ne reviennes pas, parce qu'il était vraiment très, très maigre et très malade. Je reviendrai, mais je vais rester un an. Et en fait, au bout de 3 semaines, il nous a appelés, il a dit, j'en ai marre... En fait, je suis dépendant de vous, je rentre. Je dis, ben, rentre. Et il était très, très, très fragile. Et j'ai vu ce qu'il a rapporté. C'était, oui, il y avait des souvenirs de tous ses voyages, des conférences, des lettres, des documents. Mais rien de très compromettant, en fait.
Je rembobine un peu sur la guerre d'Algérie. Vous disiez que vous en parliez souvent. Est-ce que vous vous souvenez quel âge vous aviez quand votre père a commencé à vous parler de ce qu'il a connu, lui, de cette période très trouble?
J'étais très jeune parce que mon père, il y a eu ce drame familial, c'est-à-dire que son frère aîné qui est parti n'a jamais été retrouvé. Donc je crois que quand un corps est porté disparu, en fait, la mort continue à cheminer, le chagrin, le fantasme aussi, est-ce que cet homme reviendra? Et je crois que ça a beaucoup bouleversé cette famille. Après, mon père ayant épousé une Française, et symboliquement, il me disait souvent, moi symboliquement, j'ai réuni les deux pays, je montre qu'on peut s'aimer aussi. Et puis, il y a une passion entre l'Algérie et la France, on ne peut pas le nier, même si je trouve que l'Algérie aujourd'hui a tort de se replier. Je trouve qu'il faudrait une ouverture par la Méditerranée, justement. Ce serait assez, assez merveilleux, mais c'est encore un pays qui reste... très complexe et étrangement pour moi c'est un pays, alors voilà, si mon travail va changer, c'est que avec la mort de mon père, l'Algérie m'apparaît maintenant comme un pays au contour flou et la Méditerranée m'apparaît comme une mer qui est totalement vide de mon père, c'est-à-dire que je ne la regarderai plus jamais comme avant, et l'Algérie me paraît un pays totalement étranger. Moi je suis française, je vis en France depuis très longtemps, j'aime cette France qui me permet de vivre comme je l'entends, d'aimer comme je l'entends, cette France qui me publie, qui me lit. Mais c'est vrai que j'avais une enfance algérienne qui a fait en moi des sortes un sentiment un peu oriental, mais c'est juste de l'ordre du sentiment. J'ai l'impression que mes idées, ma façon d'être, ma façon de penser est très occidentale en fait. Mais j'ai beaucoup écrit sur l'Algérie, j'ai beaucoup écrit sur mon enfance. Je ne sais pas si je vais continuer à écrire parce que je me suis aperçue étrangement que tous ces livres sur l'Algérie, c'était pour donner des nouvelles de mon père, de son pays et de notre enfance, de mon enfance, de l'enfance de ma sœur, de cette période qu'il avait connue, de cette nature incroyable, parce que c'est en Algérie, s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir, c'est cette nature qui est si belle qu'elle en devient tragique et presque effroyable. Elle vous mord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce pays-là m'apparaît totalement étranger. Il n'existait que parce que mon père était vivant. En fait, c'était le pays de mon père. Mais ce n'était plus mon pays depuis très longtemps. Et je viens de m'en apercevoir à 56 ans. C'est très, très étrange.
Vous écrivez page 40 de Grand Seigneur. Je ne veux plus écrire sur mes années algériennes, je ne veux plus trafiquer, poétiser mon enfance. En tout cas, vous le formulez en disant que ça laisse entendre que c'est une réflexion qui est déjà en cours depuis assez longtemps. Là, j'entends plutôt que c'est venu avec la mort de votre père. Vous étiez déjà en cheminement sur cette fiction algérienne qui est quand même un des cœurs de votre œuvre. Quand on vous lit Nina Bouraoui, je pense qu'on pourrait faire le sondage dans la salle, on a en tout cas pour beaucoup des images de cet appartement d'Alger que vous évoquiez par exemple, qui habite la plupart de vos romans et qu'on est capable de visualiser. En tout cas, moi j'ai l'impression d'en voir la forme et de voir cette vue extérieure. tout ça n'apparaîtra plus dans vos prochains.
Je ne sais pas, parce que moi, parfois, je disais des choses et je fais exactement l'inverse. Hein. Mais je crois que... Alors, désormais, ce sera... J'aurai conscience que cette Algérie, Alger, cet appartement, tout ça sont des éléments d'une scène psychanalytique, en fait. Mmh. Et je n'ai cessé de les répéter, de les raconter, non pas une fois de plus pour me soigner. L'écriture ne soigne absolument de rien. Ce n'est pas sa place. Mais en tous les cas, pour fixer. Il a fallu que je fixe un passé qui m'avait échappé. Moi, j'ai quitté l'Algérie, j'étais en France. Je me souviens, j'étais à Saint-Malo. Après, je suis allée à Rennes, j'étais dans ce jardin, la maison, avenue de Grignan, de mes grands-parents. La rentrée de septembre était passée. Et puis, le téléphone sonne et ma grand-mère, Simone, me dit « Ta maman veut te parler ». Et ma mère me dit « Tu ne rentres pas ». Et c'est vrai que de ne pas rentrer quand on a 14 ans, qu'on a laissé des vêtements, des écrits, des dessins, ses premières amours, ses premières amitiés, ce lycée des cartes merveilleux où j'allais entrer en classe de troisième, j'avais 14 ans, a fait une interruption très violente dans mon adolescence. Et surtout, j'ai réparé mon Algérie. C'est-à-dire que quand j'arrive en France avec ma mère, qu'on s'installe toutes les deux dans le 15e, rue Saint-Charles, mes amis algériens m'écrivent, je réponds de moins en moins, après je jette leurs lettres. J'ai des photographies, je déchire, j'ai des enregistrements audio, je coupe les bandes. Et en fait, je me suis dit, maintenant je suis vraiment en France, dans mon second pays, il faut que j'occupe ma nationalité française. Je ne peux pas regarder vers l'Algérie, sinon je ne vais jamais y arriver. Donc il y a une seconde naissance. Ces 14 ans-là, ils sont balayés. Et je crois qu'après, ma volonté d'écrire sur cet appartement, sur ma chambre, sur les gens que j'avais côtoyés, les amis, les amours, ce grand rocher plat qui est pour moi l'image du paradis, qui est un rocher à 80 km d'Alger, qui est posé sur l'eau, qui est poli par les vagues, qui est quasi désert parce que pour y accéder c'est très compliqué, il faut traverser une ferme, il faut traverser une forêt, il faut monter une petite échelle, personne ne connaît cet endroit. En fait, c'était tout ce qu'on m'avait arraché, mon univers en fait, même mon univers extrêmement personnel qui aurait peut-être pu se placer dans un autre pays, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'était le territoire de l'exil, c'était le territoire de la perte, c'était le territoire aussi à réparer, puisque j'ai renié et j'ai abandonné beaucoup des miens. Et je m'en suis voulu, mais je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que j'avance.
Et votre père, comment il lisait cette Algérie que vous écriviez, que vous écrivez, peut-être cette Algérie fictive, encore ancrée dans votre enfance ? Est-ce qu'il comprenait cette Algérie-là, lui qui continuait à y aller, qui était toujours en lien avec ce pays, qu'il voyait changer d'une année, d'une décennie à une autre ?
Oui, mon père, il me disait, tu es une poète, ma fille, tu es une poète. Et je crois qu'il était heureux parce que nous avons vécu des années 70 très fortes en Algérie. Alors, c'est vrai que mon père voyageait beaucoup, mais quand il était là, il se passait des choses, c'était très bouillonnant intellectuellement. C'était les années 70, donc il y avait une grande liberté. Mes parents recevaient beaucoup, faisaient beaucoup de fêtes. Ça discutait de littérature, de poésie, de politique, beaucoup. Et surtout... Mon père a fait partie de ces hommes qui se sont battus pour une Algérie libre. Mais il a fait partie aussi de ces intellectuels qui ont été trahis, déçus. La liberté, on l'a volée à beaucoup d'Algériens. Et beaucoup d'Algériens n'ont pas compris. On dit nos pères, nos frères sont partis au maquis, se sont fait tuer. Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Parce que les années 70, le pouvoir a été pris, on le sait. Les années boumédiennes, moi, je les ai connues. C'était des années... où même enfant, il ne fallait pas parler de politique au téléphone, il ne fallait pas critiquer le président avec les amis, il fallait faire très attention. Il y avait des enlèvements d'intellectuels, voilà, parce qu'ils écrivaient dans tel journal. Et puis après, fin 80, il y a eu la décennie noire, cette guerre de l'extrémisme religieux. Donc dans mes livres, demeure quand même encore un peu de joie, et peut-être les dernières traces de ces intellectuels optimistes. Ils pensaient qu'ils allaient sauver l'Algérie. Pas du tout. Ils ne l'ont pas sauvée. Et l'Algérie ne les a pas sauvés non plus, eux non plus.
Et l'Algérie les a oubliés, vous le disiez. C'est le cas de votre père qui, à 56 ans, se retrouve sans travail, oublié par son pays. Rien que ce concept est assez vertigineux et terrifiant. Est-ce qu'il en parlait de cette situation ?
Nous, on n'a pas voulu voir ni comprendre que, à partir de 91, mon père a fait une forme de dépression sur plusieurs années. Alors, je le raconte dans le livre. Parfois, il me disait, il se promenait beaucoup dans Paris tout seul.
Vous pouvez nous lire l'extrait,
voilà,
peut-être qu'il est tellement
exactement.
Beau.
J'y
pense. C'est la petite page jaune, page 158.
Mon père, avant d'accepter sa nouvelle situation, laissant filer les années dont je ne garde à présent que des bribes de souvenirs, je le reléguais au statut éternel du père de mon enfance, occupait son temps par de longues marches, solitaires et sans but, qu'il entrecoupait par ce qu'il nommait de petites folies. Entrant dans des magasins, essayant des dizaines de paires de chaussures, tout en sachant à l'avance qu'il n'en achèterait aucune. Avait-il besoin que l'on s'occupe de lui ? Sûrement. Un jour, place de Clichy, il avait joué au bento. Vainqueur à chaque fois et réclamant son dû, il avait reçu en échange un coup de poing en plein visage qui, par chance, n'avait pas laissé de marque. Comment l'aurait-il expliqué à ma mère ? Les récits de mon père dans la ville me faisaient penser à ceux d'un personnage de Jacques Tati, perdu dans ses pensées, ses contradictions, ses rêves inaccomplis. En imperméable, le col relevé, assis sur une chaise du Luxembourg, les mains sur les genoux, agrippé à la lanière qui pendait du plafond de son autobus, manquant tombé dans les virages, toujours un sac en plastique au poignet pour son journal, Le Monde, un parapluie rétractable, une baguette de pain sous le bras, un chapeau feutre l'hiver, ses beaux cheveux bouclés au premier soleil du printemps. Un écrivain que je connaissais et qui habitait son quartier le dépeignait lors d'un dîner en ministre à la retraite, ce qui était faux, mystérieux promeneur solitaire qui forçait au respect quand on le croisait. Une amie l'avait vu marcher au pas de course rue de Rennes, une autre à Monceau, en train de jouer au football avec un petit garçon, le fils de ma sœur. Mon père avait investi Paris à sa façon, comme il avait investi son quartier d'Alger malgré ses absences régulières. Salué à son retour, escorté parfois pour sa sécurité, même si, d'après lui, il ne craignait rien, on le désignait là-bas par son titre pérenne, Monsieur le gouverneur, titre, je le sais, qui lui survivrait.
Nouveau personnage après l'agent secret, cet homme du passé qui flâne dans Paris et qui est condamné à passer des heures dans son fauteuil vert en osier que vous décrivez, à attendre un coup de fil. Et ce qui est terrible, c'est en tout cas à cette période-là, cette même année, c'est que c'est vous, sa fille, toute jeune à l'époque, vous avez 23 ans, je crois, qui recevait ce fameux coup de fil, alors pas celui qu'attend votre père, bien sûr. Vous racontez cette scène dans le livre. Vous, c'est l'appel de la maison d'édition Gallimard. Vous allez être publié pour la première fois et votre père attend fébrilement avec vous. Comment il a vécu ce moment, votre entrée officielle en littérature, alors que lui est oublié par son pays et n'a plus aucune utilité ?
C'était drôle, en fait, le croisement, même si... écrire un livre n'est pas diriger une banque centrale, ça n'a rien à voir. Mais quand même, tout d'un coup, lui perdait quelque chose et moi, j'allais gagner quelque chose. Surtout que moi, La Voyeuse interdite, mon premier roman, j'ai commencé à l'écrire à 19 ans. J'ai fait un peu de droit, j'ai laissé tomber. J'ai fait quelques études de philosophie. Je n'ai pas de grand diplôme parce que je faisais qu'écrire. Et je sortais beaucoup la nuit parce qu'il me semblait que le territoire de l'écriture se déployait la nuit et qu'il fallait voir la nuit très jeune. Pour pouvoir raconter des histoires. Et c'est vrai que je ne le savais pas encore, mais déjà se profiler La Vie heureuse, Poupée Bella, Mes mauvaises pensées. Mais La Voyeuse interdite, en fait, c'est un livre que j'ai écrit pendant mes années d'études. Seule ma mère le savait, ma sœur aussi. Et mon père me disait, mais passe tes examens, arrête de raconter des histoires. Et en fait, j'ai posté, alors que j'étais... lamentablement en train de rater tous mes UV de deuxième année de philosophie, j'ai posté en mai par la poste, sans sans aucun, voilà, sans personne, je connaissais personne, ou à 5-6 grandes maisons d'édition. Et en fait, les éditions Gallimard m'ont répondu assez vite, exactement là où mon père a compris que son pays ne le rappellerait plus. C'était très bizarre. Et comme les éditions Gallimard, hélas, et ont encore un comité de lecture, donc il fallait mettre d'accord tout le monde. Donc on m'avait dit, alors on est très intéressés, mais ça va durer 3 semaines, chaque vendredi à 15h. On vous dira, c'est un peu comme des voix, une voix, deux voix, trois voix. Et donc mon père m'attendait. Donc deuxième vendredi, ah, c'est bon Nina, deuxième c'est bon, troisième vendredi c'est bon, quatrième. Et après on m'a dit, voilà, vous allez rencontrer Pascal Quignard, qui était mon éditeur de l'époque, et signer votre contrat. Et c'était très beau parce que à chaque fois je sautais au cou de mon père et il y avait tout d'un coup beaucoup de joie dans cet appartement qui était devenu un peu triste, puisque mon père savait qu'en plus il perdait des amis, soit les amis se faisaient assassiner, soit certains se suicidaient. Ça a été une période terrible pour l'Algérie et les Algériens, et le pays a été assez seul, c'est-à-dire que je trouve que la communauté internationale regardait tout ça de loin, sans savoir qu'un jour, cette guerre-là se déplacerait peut-être. Et ça a été comme ça, un an ou deux, je trouve, de réjouissance, de bonheur. Je faisais beaucoup de cadeaux avec mes droits d'auteur. Non, c'était très, très joyeux, comme si parfois la vie est bien faite.
On va terminer sur l'écriture, qui était aussi notre point de départ de cette rencontre. Vous parliez de ce travail archivistique pour ce recueil, le désir d'un roman sans fin, et sur le besoin que vous ressentiez de vous rassurer peut-être, ou en tout cas de trouver des réponses à des questionnements. Qu'est-ce que vous avez appris sur tout ce que vous avez écrit, sur cette quête infinie qui est la vôtre? Je ne sais pas si la question est pourquoi vous écrivez, je ne suis pas sûre qu'elle ait beaucoup de sens cette question, au fond peut-être le comment est plus intéressant, mais qu'est-ce que vous en avez appris sur votre quête?
Ce que j'ai appris, c'est que je suis fidèle à la parole de l'enfant que je fus. C'est que je ne me suis jamais trahie. C'est-à-dire que, enfant, je savais qu'il y avait quelque chose en moi à accomplir. J'ai cru que c'était dans le sport, parce que je faisais beaucoup de tennis, et qu'à 11 ans, j'ai failli être envoyée à Nice pour poursuivre des études dans le cadre du sport-études.
Vous n'auriez pas été là aujourd'hui, peut-être.
Oui, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, si quelqu'un qui fait du tennis écrit, bon, il n'est pas crédible. C'est dommage, d'ailleurs. Je suis sûre qu'on a des grands écrivains. Mais je dessinais, j'écrivais. Il y avait ces deux choses-là. Et pour moi, c'était échapper au réel, toujours. Pourquoi ? Parce que certainement, le réel me faisait peur. Mais j'ai compris aujourd'hui que non. C'était pour restituer le réel, c'était pour restituer la vie que j'aime tant, c'était pour la fixer, la doubler, la tripler. Ce que j'ai écrit, c'est la réponse à mes questions d'enfant. Donc, je tiens toujours entre mes bras cette petite fille, mais maintenant, je suis une femme. Je l'ai beaucoup consolée, je crois. Je me suis pas menti et je ne me suis pas trahie. C'est la fidélité. Et quand je relis les textes, je vois, alors parfois les premiers sont très saccadés, au début j'avais une écriture très saccadée, j'écrivais un peu avec un revolver pointé sur les autres ou sur moi, ça manquait un peu, il y avait beaucoup de colère comme mon père, mais je me rends compte que tout est en place, tout est extrêmement structuré. Même si parfois on a l'impression qu'il y a un tourbillon, un flot. Mais en fait, tout ça, c'est... Je réponds au rêve que j'ai eu enfant. Et c'est non seulement une chance, mais un luxe énorme.
On va se séparer en musique dans un instant, Nina Bouraoui. Vous devinez évidemment quelle chanson on va entendre dans une petite minute qui permettra d'ailleurs au public de se mouvoir tranquillement jusqu'à l'espace de dédicace un petit peu plus haut en sortant. On va dire un mot quand même sur le titre de ce roman qui est un écho au titre qu'on va entendre, Grand Seigneur.
Oui, quand mon père était jeune étudiant à Rennes, il chantait deux chansons à ma mère. Une, le refrain, c'était, je crois, le printemps sans amour n'existe pas. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un connaît cette chanson. Et il y avait la chanson écrite par Serge Gainsbourg, mais interprétée aussi par Serge Reggiani, qui s'appelle Maxine. Et il y avait toujours cette phrase où mon père, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui rencontre une femme du monde. Et il y a cette phrase, à chaque fois, mon père chantonnait ça, quelle que soit la situation, grand seigneur, dis ça qu'au chasseur. Et en fait, ce grand seigneur, je l'ai extrait de cette chanson pour qu'elle devienne mon titre.
Et on va écouter Maxime. Merci beaucoup, Nina Bouraoui.
Merci.